Grain de sel ou... Grain de poivre.
Bonjour Nicolas Chirapica.
Bonjour Sandrine, bonjour amis auditeurs.
Vous êtes notre chroniqueur aujourd'hui sur Phare FM. Vous êtes chroniqueur et blogueur justement. Et l'événement est passé relativement sous silence. C'est pour ça que vous voulez revenir dessus ce matin. Il y a un mois environ, le 12 octobre, les États-Unis et Israël se sont retirés de l'UNESCO et on n'a peut-être justement pas vraiment compris ce qui s'était passé. Est-ce que vous voulez nous éclairer, Nicolas ?
Effectivement, Sandrine, les États-Unis se sont retirés il y a un mois de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, l'UNESCO. Immédiatement après leur annonce, c'est Benjamin Netanyahou qui a donné des instructions pour qu'Israël en sorte également. La raison est simple, l'UNESCO est devenu un outil de propagande islamiste pro-palestinienne qui tout simplement conteste à Israël le droit à exister même dans sa propre terre.
Oh là là, vous vous attaquez fort là d'entrée. Vous dites que l'islamisme est la cause palestinienne instrumentalise les Nations Unies, Nicolas ?
Oui, Sandrine, c'est un secret pour personne. Vous vous souvenez que le 7 juillet dernier, Hébron était déclaré site palestinien et zone protégée du patrimoine mondial. L'UNESCO dévoilait clairement qu'il voulait annexer culturellement la ville qui, pourtant, abrite le tombeau des patriarches juifs. Les États-Unis de Ronald Reagan s'étaient déjà retirés de l'UNESCO en 1984 pour les mêmes raisons. Et ce retrait avait déjà duré 8 ans.
Alors éclairez-nous, Nicolas, pourquoi Israël, qui critique les Nations Unies, a-t-il attendu que les États-Unis se retirent en premier ?
C'est une stratégie. En 2011, alors qu'elle ne faisait pas partie de l'ONU, il faut être un État pour en faire partie, l'autorité palestinienne rejoignait l'UNESCO, l'organisation culturelle de l'ONU. Israël s'était seulement indigné diplomatiquement. Partir, justement, c'était laisser le champ libre à ses ennemis, leur donner l'opportunité d'être encore plus actifs. Mais cette fois-ci, Israël a suivi son allié en espérant que d'autres États prennent le même chemin, mais c'était en vain. De plus en plus, on entend parler de résolutions délirantes qui cherchent à nier la présence juive à Jérusalem, par exemple. Et le plus étonnant, Sandrine, c'est que personne ne réagit.
Alors ce retrait est intervenu au moment du processus d'élection du successeur de la Bulgare Irina Bokova à la tête de l'organisation. Qu'est-ce qui va changer, Nicolas ?
Alors curieusement, malgré la nomination d'une très courte tête de l'ancienne ministre de la Culture du gouvernement de Hollande, Audrey Azoulay, c'est une juive pro-israélienne, bien rien ne semble pouvoir enrayer cette mécanique quasi négationniste. Israël a pourtant prévenu, si l'institution change d'attitude, ben l'État juif pourrait rester, mais rien n'y fait. L'antisionisme, qui est le nouveau visage de l'antisémitisme, vous le savez, est la norme dans l'institution. Les nations hostiles sont majoritaires. Les demandes d'Audrey Azoulay, qui réclame juste un peu de temps pour mettre fin à la politisation de l'UNESCO et instaurer une nouvelle atmosphère, ressemblent à un vœu pieux.
Son mandat est d'emblée soumis à rude épreuve.
Oui, oui. Deux nouvelles résolutions anti-israéliennes sont à l'étude et Israël s'agite en coulisses en tentant de battre le rappel des nations amies qui sont de plus en plus rares. Le premier texte nie une nouvelle fois tout lien entre le peuple juif, Jérusalem et le fameux mont du Temple. Et le second accuse, encore une fois, Israël de violer les droits des Arabes palestiniens en Judée et Samarie dans les domaines de l'éducation et de la culture.
Et qui est derrière ces motions ?
Comme d'habitude, Sandrine, ces motions qui ne sont plus politiquement correctes mais islamiquement correctes sont soutenues par de riches États musulmans comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, la République islamique d'Iran. Le monde change. L'heure est avancée à la pendule du monde, Sandrine. Et vous savez que ce combat est avant tout spirituel. Je ne veux pas vous sembler catastrophiste, mais il est temps pour nous, chrétiens, de prier pour la paix de Jérusalem, comme la Bible nous y invite, et de savoir en qui et en quoi nous croyons.
Merci beaucoup, Nicolas Chirapica.
Avec plaisir.